RMC, entre les poteaux,
Wilfried Templier.
Salut à tous, entre deux reports, deux tests PCR et deux morceaux de foie gras, le top 14 nous a encore régalé ces derniers jours. Des matchs fous, des scores de super rugby, des renversements de situation et un constat, personne ne maîtrise son rugby. Sur le bout des doigts, le leader, l'UBB, a eu du mal à battre le dernier, Biarritz. Toulouse perd son quatrième match d'affilée à l'extérieur. La Rochelle tombe sur un os à Castres ou Perpignan, pas loin de la vérité, en déplacement au Stade Français. Personne ne domine son sujet et surtout impossible d'imaginer le classement final, le champion ou les relégués. On en parle avec les poteaux de ce championnat de fou. On reviendra bien sûr sur cette 14e journée, la moue de Christophe Furios, les nouveaux ratés d'Yaya West, Camille Lopez en Zorro ou le Racing qui n'arrête pas de couler. Il y a pas mal de choses à dire. Le frelon aurait pu s'appeler Vilimoni Botitou ou Léo Berdeux, mais c'était presque trop facile à dire, alors on a préféré récompenser le Parisien Vaïséa, Naya Salevou, Vuidra vous Valou, pas que pour le plaisir d'entendre Denis Charvet s'exercer lors de sa première de l'année chez l'orthophoniste, mais aussi car c'est un immense joueur que le Stade Français va bientôt regretter. Et enfin, dans le French Cancan, on parlera du Japon, futur adversaire des Bleus en tournée d'été au mois de juillet. Les Japonais veulent intégrer un grand tournoi. Alors faut-il qu'ils rejoignent le Rugby Championship, le tournoi destination, et où en est la sensation de la dernière Coupe du Monde? On tentera de vous éclairer. Et pour cela, ils ont mis leur lampe frontale et repartent au charbon. On salue notre consultant vedette Denis Charvet. Bonjour Denis et bonne année.
Bonne année à vous tous et meilleurs voeux, et voilà, et que le rugby nous amène autant de bonheur, nous apporte autant de bonheur que cette année.
Et que tu payes ton
les fêtes temps. Se sont bien passées, les fêtes se sont bien passées.
Ouais,
Denis,
très bien.
La balance,
oui.
Fait la tête ou tu mets les deux pieds sur la balance?
Non, impeccable.
Ça va.
J'ai bu avec modération. Il faut toujours boire avec modération.
D'accord.
Et manger avec modération.
La balance, lui, il s'en fout avec son physique de héron, le Stéphane Larkham auvergnat et du middle. Bonjour Léo Fort et bonne année.
Et bonne et belle année à tous. La référence à Stéphane Larkham, je prends tous les jours.
Eh oui, je sais, c'est pour ça que tu l'as dit. Et puis les forces vives, ou plutôt molles, d'RMC Sport, car on sort des fêtes. Jeff Paturo de retour du Pays Basque, où il a fait une cure de pâté et de gâteau basque, ça va de soi. Bonjour Jeff et bonne année.
Bonjour, bonne année. Et qu'on nous paye le restaurant cette année, hein, Denis.
T'inquiète pas, on va lui rappeler. Et Julien Richard. On en va en parler, t'inquiète pas. Julien Richard de retour de Bergerac, où il a fait une cure de foie gras et de magret. Périgourdin, ça va de soi aussi. Bonjour Julien et bienvenue dans Entre les poteaux.
Ah, je suis très ému d'être avec vous, messieurs.
Et
bonjour.
Très affûté aussi.
Et très affûté, effectivement.
Ouais, un peu moins que Léo Fort, je pense. On repart de plus belle, messieurs, avec notre top 14 préféré, où rien ne va plus, tout est possible.
La pénalité qui passe pour Camille Lopez à 6 minutes de la fin, impeccable dans son rôle de buteur.
35 mètres, 37 mètres, complètement à gauche des perches. Il est sur son pied droit, le néo-zélandais. Il s'élance, le ballon qui part et qui passe à un poteau.
30 pour l'UBB, 27 pour Biarritz qui a marqué deux essais en
incroyable.
Fin de match.
Incroyable fin de match.
À la 85e, signé Francis Saïli.
Et Yaya West qui s'élance. C'est raté. C'est raté pour Yaya West. Ça passe à droite.
Magnifique, le petit essai de Baptiste Couillou, les Lyonnais qui donc l'emportent sur le fil puisque c'était la 79e minute.
Ce week-end était dingue, cette 14e journée avec Clermont qui bat Toulouse, Castres qui renverse La Rochelle, Biarritz qui va chercher le bonus défensif chez l'UBB. Il s'est passé plein de choses. D'ailleurs, on souhaite une bonne année et on est content de retrouver nos auditeurs, entre guillemets, ceux qui téléchargent cet Entre les poteaux. On va prendre les choses dans l'ordre, messieurs. Alors, le leader, justement, qu'on attendait largement dominateur face à la lanterne rouge Biarritz, mais les Biarros sont revenus d'un 25-6 puis d'un 30-13 pour ne s'incliner finalement que 30-27. Avant d'en parler, évidemment, ça n'a pas plu au manager bordelais Christophe Furios.
On a fait le strict minimum. Je trouve qu'on a été, c'est plutôt bien de revenir deux fois dans le bonus et de prendre deux essais en fin de match. Moi, j'appelle ça lâcher les matchs. C'est le contraire de ce qu'on veut faire. Donc, quand on parle de gagner les 60 et 80e minutes, hein, parce que dans l'état d'esprit, parce que physiquement, parce qu'on entre au rugby, là, aujourd'hui, on a lâché le match. Donc, ça le donne de me gonfler, ouais. Puis on a manqué de caractère. Donc, on a perdu un point.
Christophe Furios au micro de Romain Asselin. Denis, est-ce que c'est normal de pas toujours avoir des matchs aboutis sur toute la saison? Avant qu'on fasse le bilan de tout ça, mais on parle de match par match, quand on s'appelle l'UBB, même quand on s'appelle l'UBB quand on est leader.
Ben évidemment, mais je pense quand même que si tu vois le match, la physionomie du match te parle d'elle-même. En première mi-temps, l'UBB n'est pas bonne. Et il mène largement au score, un peu contre le cours du jeu, parce que Biarritz fait le jeu. Biarritz est plutôt dominateur, donc c'est un match où il passe à travers. Donc à l'arrivée, ils s'en sortent bien. C'est vrai qu'après, quand tu as le point de bonus offensif et que il reste quelques minutes à jouer, tu te dis bon, mais là c'est plutôt miraculeux. Mais bon, il faut reconnaître quand même que les Biarros ont été très bons, que les Biarros sont allés chercher ce point de bonus défensif qui risque de les maintenir dans l'élite. Donc voilà, je pense que l'un dans l'autre, il faut pas quand même sous-estimer l'opposition, il faut même la respecter, et que de temps en temps, ben, ça arrive, c'est pas que ça arrive de passer à côté, c'est de respecter ben, le combat qu'il y a eu hein, face à des Biarrou très agressif et très et bien présent.
Il faut rappeler aussi, Denis, que l'UBB était à court de forme. C'était un petit peu un match de reprise entre les hommes de
Christophe Furios. Oui, en plus, bien sûr. Oui,
n'avaient pas joué depuis un petit moment depuis la première journée de Coupe d'Europe. En face, tu l'as dit, Biarritz, c'était vraiment... Les Biarrous sont arrachés pour décrocher ce bonus défensif, mais on sentait que les Bordelais étaient approximatifs.
Léo, tu es surpris par ce résultat face au match des Biarrous ou non?
Le résultat c'est que oui, forcément avant le match tu te dis pas que ça va finir aussi serré. Après faut prendre ça à l'échelle d'une saison, ça va rester un épiphénomène. Bah oui. Alors, bien sûr que ça plaît pas à Christophe Furios, et en plus celui qui met l'état d'esprit, le combat, ces choses-là vachement en avant, mais c'est un marathon le top 14, il y a aucune équipe qui sort 26 grands matchs sur la phase régulière. Voilà, ils ont pris les 4 points, ils ont fait malgré tout le travail, et dans 2 mois on aura oublié ce match hein.
Mais tu sais, il dit on a perdu un point, je pense qu'il en a gagné 3. Je pense qu'il y en a 3.
Moi j'avais le bonus offensif, oui, c'est vrai.
Et non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils auraient pu perdre. Ça peut tourner au vinaigre, ce match, parce que les Biarrous sont dans le match, ils sont jamais sortis du match.
Il y a deux fois où le break est fait.
Oui, mais break sur des actions qui sont pas, tu vois, déterminées.
Non, mais je suis d'accord, mais il y a 25-6. 25-6, pour le coup, c'est un vrai break, quoi. Ça reste un match de saison régulière, il n'y a pas péril dans la demeure à Bordeaux, quoi.
Il peut être content, clairement, Christophe. Ouais.
Oui, bon, ça fait 4 points, c'est vrai, et des fois faut les prendre, hein, parce qu'on va en parler justement de ce top 14 fou, mais on se penche un peu sur les matchs. Clermont a amené une réponse aussi depuis des semaines, on en parlait de Clermont en battant Toulouse. Léo, si Camille Lopez a changé pas mal de choses à son entrée dans la conduite du jeu,
ouais,
mais on a senti quand même du début à la fin une grande détermination des Auvergnats.
Le problème de Clermont et aussi sa qualité, c'est que enfin, ils ont pas énormément de marge, notamment dans le combat et le 5 de devant, donc ils ont pas le choix, ils sont obligés d'être dans une grande détermination et là, il y avait quand même une mise en danger, c'était Toulouse qui se présentait, donc oui, ils se sont envoyés, ils ont rien volé, leur match franchement est superbe. Après, la limite de ça, c'est qu'eux, ils sont un peu obligés de répéter ça tous les week-ends, parce qu'eux, ils n'ont pas de marge,
ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Donc là, voilà, on sent qu'ils étaient en danger, qu'ils avaient de la crainte au moment de recevoir Toulouse, et ils se sont envoyés, ils ont imposé un combat qui était solide quand même.
Ouais. Et Camille Lopez doit être décisif, hein, parce que c'est vrai qu'Aran n'a pas été trop à la fête non plus, hein.
Depuis le début de saison, hein, ils ont un vrai problème sur ce poste. Ils vont perdre Camille Lopez, ce qui va, alors certes, ils prennent Jules Plisson, Anthony Bello, à voir dans quelle mesure ils vont être capables de remplacer Lopez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, si on parle de cette saison, s'ils venaient à casser Lopez, je souhaite pas pour Camille, et je le souhaite surtout pas pour les Clermontois, ils vont avoir un vrai, vrai problème au poste.
Et c'est la saison prochaine qui s'annonce peut-être plus compliquée aussi, hein, parce qu'ils vont perdre des cadres, il y a un effectif qui va être un peu remodelé, une nouvelle ère qui va se débuter à Clermont.
Ouais, et puis au-delà de Lopez Parra, c'est des joueurs qui sont quand même plutôt sur la fin de carrière, et il y a une forme de logique, après il y a un phénomène de génération, mais perdre Vili et Falatea comme ça,
ça semble
se dessiner, le message envoyé il est pas très bon quand même.
Vous êtes pas en train de me changer le fil conducteur du podcast là un peu?
Non, complètement.
Et alors?
Si, complètement.
T'aimes bien ça? Et les huîtres, t'aimes ça ou pas?
Autre rencontre folle, je peux en témoigner, c'est le Castres La Rochelle avec des Rochelais qui roulent sur le CO, hein, qui mènent 24-3 à la 25e minute. Les Castrais reviennent à 24-17, important avant la mi-temps. La Rochelle ensuite devant 30-17 avant d'encaisser deux essais de Van Verberg et Botitou. 31-30. Quand Iyaya West a deux fois la gagne au bout du pied, une pénalité sur le poteau, une autre à côté, casse qui s'impose. Denis, c'était peut-être un des plus beaux matchs de la saison. Hein.
Oui, c'est un match magnifique avec beaucoup d'envie, puis une entame terrible des Rochelais. Et là, tu te dis, bon, ils ont fait le job, c'est fini, le match est plié. Puis avec
il y a le caractère des Castrés derrière.
Voilà, mais le problème, c'est que ces Castrés, ça fait des années, ça reste les mêmes. Tu changes les joueurs, l'âme est toujours là, quoi. Donc c'est un club à part, que toi tu le connais bien, Wilfried, ce club, c'est que Christophe Furios s'est passé par là, il y a plein de jeux d'entraîneurs qui sont passés par là, mais il y a toujours eu cette patte, cette identité, ces valeurs-là. Et c'est faut leur rendre hommage, parce que c'est vrai que leur n'est pas cher après 20 minutes de jeu, ils sont allés le chercher ce match, ils sont allés le gagner
avec de sacrés mouvements en plus. Mais Jeff, il y a eu Jules Plisson, maintenant c'est Yaya West, ça reste problématique pour La Rochelle dans un match comme ça?
Ça reste problématique, c'est sûr que c'est pas une finale ou un match de phase finale, mais c'est vrai que rater ces pénalités de la gagne, on sent que psychologiquement, ces ouvreurs pour l'instant à La Rochelle sont un peu dans le doute. On rappelle que la saison prochaine, il y a Antoine Astoy, le Palois, qui va arriver. Il y a Cetini qui est capable, le Bordelais qui est capable de jouer à ce poste-là. Et est-ce que ça a pas casser un petit peu la confiance de cette équipe, de ces ouvreurs en tout cas, qui sont pas dans un climat le plus serein possible pour être en confiance et pour taper des pénalités comme il faut peut-être aussi.
Ben, ouais, Julien, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Jeff. Je pense quand même que si West était au niveau et mettait les pénalités qu'il faut mettre quand il faut les mettre, il y aurait pas débat. Il y aurait pas débat. Il y aurait pas de recrutement. Il serait titulaire à part entière, comme Ntamack l'est à Toulouse ou quand t'es un titulaire en puissance. Non, là, je crois que ça fait un an que je le dis. Ça fait un an. Souvenez-vous, je vous l'ai dit. Je dis, on peut pas être champion de France ou champion d'Europe sans un buteur de classe internationale. Ce n'est pas possible. Ouais. Et la preuve, c'est qu'hier, ben, il a failli dans son rôle, mais il a failli parce que il est nerveux dans ces moments-là, dans ces momentum-là. Il arrive pas à tenir la pression. Il a deux pénalités à mettre, une sur les deux, et puis il rate les deux. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est comme ça.
Écoutez, son capitaine Grégory Aldrit prend sa défense.
C'est important parce que je sais très bien comment ça va se passer. J'ai envie de dire que ça a été presque le meilleur Rochelais ce soir. Et au final, avec cette balle de match, ben, tout le monde va lui tomber dessus. Alors que franchement, il mérite la médaille d'homme du match ce soir, quoi. Il a été performant tout le match. L'avant-dernière, il la rate. Elle est 45 mètres en coin. Je pense qu'elle est difficile. De toute façon, c'est pas à moi de parler de ça. Et je pense que, comme j'ai dit, on peut finir le match bien avant. Et le problème, il n'est pas là, quoi.
C'est vrai qu'Aldrit a eu l'honnêteté de reconnaître que il y a eu d'autres fautes, hein. Lui-même et Bourgarit, il dit on défend mal sur une touche. Il y a Botitou qui traverse le terrain et il
perd avant
mal en défense.
Ouais.
Et il dit ça se voit moins. Là, on en parle moins de mon erreur. Il dit on va parler que de l'erreur de Yaya West. Ouais.
Mais encore une fois, c'est pas le débat. Le débat, tu peux effectivement à un moment donné faire des erreurs individuelles pendant le match. Mais le buteur, c'est lui qui te fait gagner normalement dans ces matchs.
Mais quand tu mènes aussi largement le match, tu dois pas le perdre à la fin.
Je suis un peu d'accord avec Denis, Jeff. Parce qu'à un moment, non, le buteur fait la diff, quoi.
Mais moi, je suis pas là pour critiquer, West.
Je suis d'accord avec toi, Denis. Le buteur doit faire payer.
Mais qui c'est qui dit ça? Léo, il dit, ils ont perdu un titre de champion d'Europe. À cause de ça.
Donc,
arrêtons de penser que ça n'a pas d'importance. C'est capital pour moi. Donc, c'est une faillite totale. Mais qui, voilà, parce qu'encore une fois, c'est pas le critiquer de dire que c'est pas un grand buteur. Voilà, c'est tout. C'est la vérité, elle est là.
C'est ce qui est terrible dans ce rôle, c'est que tu es tout seul pour récompenser toute une équipe. Donc, les Rochelais en finale de Coupe d'Europe, ils font le travail pour battre Toulouse. Et sauf que le mec qui doit à la fin les payer, il les paye pas. Et c'est ce rôle-là qui est ingrat, mais effectivement, il est en difficulté. C'est pas nouveau, c'est pas sur un match.
Et ça doit être fou, vous imaginez, un entraîneur comme Ronan O'Gara, c'était un buteur incroyable, il détient le nombre de points inscrits en Coupe d'Europe.
Un entraîneur aussi calme en plus.
Oui. 1365 points au pied, vous imaginez, Owen Farrell c'est 794 points, j'étais fouiné un peu, je savais que c'était lui, O'Gara qui avait ce record, vous imaginez la trempe du buteur d'O'Gara qui voit son joueur comme
mais
ça.
On sait qu'il travaille beaucoup, O'Gara travaille beaucoup avec lui, mais ça sert à rien la vérité.
Après le match.
O'Gara, il raconte lui-même, il a passé la moitié de sa carrière à se ronger avec ça. Au tout début de sa carrière, la finale de Coupe d'Europe contre Northampton, il fait 0 sur 5. Et il perd le match, le Munster, et il raconte que la première moitié de sa carrière, il a passé ses fins de match qui étaient un peu serrés à espérer de pas avoir une pénalité de la gagne à tenter. Donc, il est très au courant de ce que c'est de se ronger la tête avec ça.
Ouais.
Il peut l'accompagner là-dedans. Et il a, dans sa deuxième moitié, après des coups de pied décisifs, il en a passé des dizaines. Mais voilà, s'il y en a un qui est au fait de cette difficulté, c'est bien lui quand même.
Bon, mais si on peut voir que tout est
ce qui trompe pas, pour finir, Wilfried, c'est qu'ils ont recruté Astoy qui est un buteur et qui tourne à 85
et qui prolonge pas West.
Oui,
ils ont compris.
C'est logique.
On peut voir que tout est possible dans ce championnat. Les poteaux vont donc entrer en mêlée. À quoi s'attendre en 2022? Alors chaque année on le dit, mais chaque année on a l'impression que c'est encore plus fort. Le top 14 est homogène. Jeff, si ça se dessine un peu au classement, en haut, les locomotives de ce championnat n'apparaissent pas toujours sereines.
Ouais, c'est vrai, tu l'as dit. Avant de demander les pronostics fameux de Denis Charvet pour cette année, un petit bilan. Pour le moment, les clubs attendus sont là, en tout cas l'Union Bordeaux-Bègles, qui est leader de ce top 14, avec seulement 2 défaites en 13 journées. Les hommes de Christophe Furios, on le voit en poupe, mais attention, derrière, c'est très serré, puisque les 6 premiers de l'UBB, donc jusqu'à Lyon 6e, ces clubs se tiennent en seulement 11 points. 11 points, c'est vraiment pas grand-chose. Comme prévu, l'UBB est là. Comme prévu, évidemment, le Stade Toulousain. On rappelle que Bordeaux a battu le Stade Toulousain, ce qui permet à cette équipe d'être en tête. Mais à l'image, on l'a dit, de sa victoire hier, l'UBB a encore une marge de progression. Toulouse, la même chose après cette défaite à Clermont. Là aussi, il faudra faire le plein en plus dans les matchs à venir, car après, les internationaux vont partir. Et après, peut-être qu'il y aura encore plus de doublons avec les matchs reportés. La vraie satisfaction du début de saison et de ce haut de tableau, c'est Montpellier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le MHR qui luttait la saison dernière pour ne pas descendre est aujourd'hui 3e avec seulement 4 défaites en 13 matchs, un match en retard donc, et les hommes de PSA restent sur 6 victoires consécutives. Ils ont une bonne tête d'outsider, reste à savoir s'ils vont pouvoir confirmer jusqu'au bout de la saison. Derrière, Castres est toujours aussi solide, Lyon est revanchard après sa non-qualification de la saison dernière, et La Rochelle, vice-champion de France et vice-champion d'Europe en titre, tous ces clubs-là sont encore dans les clous. Faut pas oublier non plus Clermont. On le disait, ils sont toujours à la limite, mais ils sont pas encore trop loin, puisqu'ils sont 7e à seulement 2 points du Loup.
Et plus bas, c'est la même chose. Les deux clubs parisiens se débattent pour s'extirper, mais avec eux, la concurrence est énorme, puisque des Pau, des Biarritz, des Perpignan font de la résistance.
Ouais, et là, c'est aussi très très serré. On va commencer par quelques déceptions. La plus évidente, la plus actuelle, c'est le Racing 92, qui a du cœur, mais pas de résultats en ce moment, puisqu'ils sont seulement 10e, les hommes de Laurent Travers. 4 défaites consécutives en top 14. Ceux qu'on a surnommés parfois les Galactiques déçoivent. Devant, ils se sont souvent fait balloter, chahuter en mêlée. Et depuis leur victoire à Northampton, ils n'ont pas pu confirmé. On rappelle que lors de la première journée de Coupe d'Europe, on s'est dit ça y est, c'est reparti pour le Racing. Sauf que depuis, pas possible de confirmer. Défaite à Lyon hier pour les hommes de Laurent Travers. Les joueurs du Stade Français, autre club de la région francilienne, eux, ils alternent le bon et le moins bon. Le très mauvais, c'était en début de saison. Depuis, ça se passe un peu mieux pour les hommes de Gonzalo Quesada, mais qui sont gagnant sans être brillant à l'image de cette victoire contre Perpignan. Il y a un club dont on parle pas beaucoup, qui est en bas de tableau, c'est le RCT. Le RCT est 11e seulement, avec 22 points. Ils ont 2 matchs en retard. Eux, ils ont déjà vécu un changement d'entraîneur. Et enfin, la vraie lutte pour le maintien, ça va se jouer entre Brive, Perpignan et Biarritz. 21 points pour Brive, 19 pour l'USAP, 19 pour le BO. Et ça tombe bien, car samedi, il y a un petit Biarritz-Perpignan qui va être sympa à Aguilera.
Messieurs, on va commencer par le haut du tableau. Quelle est votre grosse cote pour 2022? Est-ce que Toulouse restera Toulouse? Est-ce enfin l'année de Bordeaux? Peut-il y avoir une surprise comme Castres ou Montpellier? Denis?
Toulouse, Bordeaux va rester Bordeaux, et Toulouse aussi. Je pense que ces deux clubs vont accrocher les deux premières places. Même si Montpellier, fait figure de gros outsiders. Ils sont pleins de confiance. C'est vrai qu'ils enchaînent les victoires. Donc cette dynamique-là, elle est pas prête de s'arrêter. Après Castres aussi, mais bon, moi, on va parler un petit peu.
Toi, tu mets un billet sur Toulouse et Bordeaux. Billet à mettre pour le bouclier ou la finale ou le. Tu vois ces deux clubs.
Disons oui, déjà qualifié pour les demi-finales directes, ça veut dire qu'il y a un match à gagner pour la finale. Donc, je les vois pas loin du bout tous les deux.
Julien, qu'on n'a pas entendu. Est-ce que tu sens une grosse cote? Est-ce que
la grosse cote, c'est toujours le Stade Français qui est pour se qualifier pour la phase finale. Tu les attends jamais, mais ils sont toujours.
Tu les vois refaire le coup de.
Sur la dynamique actuelle,
Bayonne
pas. On sait jamais.
Bayonne non.
Mais Bayonne.
Ça c'était une petite pique venant
de Clermont. Non mais voilà, et puis il faut je pense pas enterrer non plus le Racing 92, les deux clubs franciliens qui sont c'est vrai quand on regarde le classement aujourd'hui, c'est surprenant de les retrouver là, enfin, en tout cas le Racing, faut pas les enterrer.
Ouais, plus le Racing
Léo, que ça, plus, plus que le Racing. Ouais.
Léo, est-ce que les Toulousains on va reparler les Toulousains, Léo, est-ce qu'ils vont se transformer quand les beaux jours vont arriver? On sent moins de précision dans leur jeu. Alors, n'en déplaise à Hugo Mola qui nous disait il y a quelques semaines, je sais très bien que vous, les journalistes, vous nous voyez moins bien jouer, mais on a quand même le sentiment que peu de matchs ont été complètement aboutis par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre d'une telle équipe, évidemment.
Mais ce qui est à la fois terrible, c'est que oui, moi, je confirme, j'ai pas de souci à dire Hugo Mola que oui, je les trouve moins bons et je les vois moins bien jouer que l'an dernier. Et malgré tout, ils sont quand même deuxième. Et puis alors, ils ont une force depuis le début de saison, c'est qu'avec très peu de choses, ils scorent. Mais non, mais en plus, c'est dire la marge. Pour le coup, on parlait de Clermont tout à l'heure qui a pas de marge. Eux, on a l'impression qu'avec des miettes, ils sont capables de mettre 3-4 essais dans un match. Donc, il y a toujours cette idée de se dire que le moment où ça va se mettre en route la machine, ils vont de nouveau être très très difficiles à prendre. Donc oui, ils ont moins le côté machine qu'ils avaient notamment l'an dernier. Mais enfin, avec pas grand-chose, ils font tellement de l'or que forcément qu'ils seront. Enfin, pour moi, ils restent favoris même devant l'UBB qui pour l'instant est leader.
Et on parlait de l'absence de Dupont, notamment à Clermont. Il y a deux mecs qui sont pas là et qui manquent terrible. C'est les frères Arnold. Et on n'en parle pas beaucoup, mais avec ou sans eux, c'est pas pareil. Messieurs, est-ce que l'énigme, finalement, c'est pas La Rochelle? Un pas en avant, un pas en arrière, Denis. Est-ce que c'est pas une énigme, le Stade Rochelle, là?
Ça peut être le loup aussi, non?
Une énigme, quand tu les vois jouer comme hier. Après,
non, mais quand je dis énigme, Jeff, c'est que un coup, ils font une prestation comme ça, ils mettent 25 points à Castres et après, ils s'écroulent, Denis.
Oui, mais ils ont l'effectif pour aller encore chatouiller les grandes d'Europe et le top 14. C'est vrai qu'ils sont plus inconstants que par le passé. Ils traversent une période un peu plus marquée parce qu'ils n'arrivent pas à scorer et à faire
à tuer les matchs. Ils n'arrivent pas à tuer les matchs. Au Stade Français, c'était pareil.
Voilà, San Francisco, ils auraient dû tuer le match, ils l'ont pas tué. Là non plus, ils ont laissé beaucoup de points en route. Parce que si on regarde le classement actuel, sans cela, ben ils seraient peut-être dans les deux premières places.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va passer rapidement au deuxième partie de classement. Messieurs, alors Jeff, Julien, vous suivez ce club, le Racing, peut-il ne pas se qualifier ?
Moi, j'ai du mal à y croire. Ouais. J'ai du mal à y croire.
Qu'ils vont se qualifier ?
Non, j'ai du mal à y croire qu'ils ne se qualifient pas, en fait.
D'accord.
Il y a un tel réservoir dans cet effectif. Honnêtement, que le Stade français ne se qualifie pas, vu l'effectif, c'est pas les mêmes galactiques, c'est pas le même moyen, le même matériel derrière. Le Racing, derrière, quand ça tourne, c'est impressionnant. Par contre, en revanche, il va falloir qu'ils soient vraiment meilleurs à domicile, qu'ils arrêtent de perdre des matchs qu'ils ne peuvent pas perdre à la maison, et de ce week-end contre Clermont. S'ils continuent à être un peu fébriles, à laisser échapper des victoires comme ça, là, ça peut devenir inquiétant. Mais une fois qu'ils ont tout le monde, faut rappeler qu'ils ont eu beaucoup de blessés en début de saison, que là, il y a des joueurs qui n'étaient pas là à Lyon parce qu'il y avait des cas de Covid. Quand l'effectif sera au complet, moi, je pense que le Racing va se qualifier. Oui.
Julien, le Racing a du cœur ?
Racing a du cœur, et contrairement à ce que disait tout à l'heure Jean-François Patureau. Pas mieux que Jeff. Quand on voit l'effectif, je vois pas comment c'est possible que le Racing continue à passer à travers.
Mais
c'est vrai que
ces dernières années,
et Denis a raison d'être peut-être inquiet. Je crois que Denis était inquiet par rapport au Racing.
Ouais. Mais le problème, les gars, c'est des gros effectifs. Il y en a 8 ou 10 aujourd'hui, donc il y en a forcément qui vont rester.
Oui, voilà. Non, mais le championnat s'est resserré. Vous le voyez bien.
Vous n'allez pas dire que l'effectif du Racing a quelque chose à envier.
Non, mais d'année en année, ça devient de plus en plus difficile de se qualifier. Le problème, c'est que aujourd'hui, le Racing fait plus peur à personne. Les équipes qui viennent jouer au Racing sont décomplexées, ce qui n'était pas le cas avant. Regardez, prenez l'exemple de Perpignan qui a failli gagner au Racing. Qui l'aurait cru par le passé? Jamais, ça aurait pu ça arriver.
0-0 à la mi-temps.
Donc 0-0 à la mi-temps.
Grand match.
Je veux dire, les équipes n'ont plus peur du Racing. Mmh. C'est ce qui me fait dire que c'est mon inquiétude, c'est que, voilà, que les matchs, il va falloir aller jusqu'au bout pour le Racing. Et surtout pas les perdre à la maison, parce qu'il y a encore de drôles de matchs à jouer à la maison. Et cela, il faudra les gagner.
Jeff, tu l'as dit, samedi, Biarritz-Perpignan, Léo, est-ce que de ces deux promus, lequel a plus de chances de s'en sortir ? Et pourquoi ?
Alors ils sont égalités, si je dis pas de bêtises, au classement.
Tout pareil.
Le jeu, c'est d'être 13e, quoi, d'être barragiste, ou peut-être un peu mieux, 12e.
Ouais, hein.
Mais entre les deux, tu fais
différence. Privé pas sauvé. Ouais, je trouve dans la sensation, dans ce qui dégage, les Biarros me font une meilleure sensation, même si les Perpignanais ont fait un bon match à Paris. Mais je trouve qu'ils ont une densité, ils ont une agressivité supérieure aux Catalans. Alors après, ça garantit rien. Mais si je devais mettre une pièce là, je la mettrais plutôt sur les Biarros, aller pour une 13e ou une 12e place. Je les trouve plus complets, ouais.
Bon, et parmi ces clubs qui vont penser avant tout à assurer le maintien, même si Julien Richard voit le Stade français se qualifier, ben le Stade français, ouais, 8 points d'avance sur la 13e place. Et c'est souvent grâce à un homme à tout faire au milieu du terrain, c'est le frelon de la semaine. Et Vaïséa, trouvé, qui va aller aplatir l'essai, le premier essai de la partie, superbe passe, et Vaïséa, le joueur parisien peut-être le plus décisif ces dernières semaines. Attention Vaïséa, avec le retour intérieur, maintenant il y a encore Vaïséa, la solution, parce qu'il y a un retour de plaquage, il n'a pas donné son ballon, il le fait, et le doublé, l'essai, Vaïséa, 53e, le Stade français qui prend le large maintenant, le doublé, Vaïséa, superbement joué.
RMC, entre les poteaux,
lancé comme un frelon.
Ce jingle frelon customisé par Geoffrey Charpie et Adrien Paré qui sont à la réalisation de notre podcast.
Il y a du travail là.
Ah, attention, hein, là ça envoie.
Prends ça, Pierre.
Alors c'est vrai que ce titre aurait pu, je vous le disais en début de podcast, aller au Castres Botitou qui a fait un match énorme face à La Rochelle. C'est une arme offensive incroyable et la bonne pioche du recrutement Castres. Mais le frelon, c'est Vaïséa qui porte à bout de bras le Stade français depuis des semaines. Denis, Vaïséa, Naya Salehu. Vas-y.
Oh non, mais t'as fini.
Naya Salehu.
Vaïséa, Naya Salehu.
Très bien. Et le dernier, Vuidra Vuvalu.
Vuidra Vuvalu.
Bravo, pas mal en 2022.
Pas mal, pas mal.
En tout cas,
d'un coup, ça, je pense que j'y arriverai jamais, mais bon.
On verra. On continuera toute la saison, si tu veux, à chaque podcast. Julien, en tout cas, c'est un monstre. C'est pas d'aujourd'hui, mais il est toujours là.
Ouais, c'est que pour Denis Charvet, quand l'appétit va, tout va. Au Stade français, c'est plutôt quand Vaïséa va, tout va. C'est le meilleur joueur parisien depuis le début de saison, clairement le plus décisif. 6 essais, 3 doublés d'ailleurs, hein, contre Clermont, le doublé contre La Rochelle, qui, souvenez-vous, avait renversé le match début décembre, et puis ce doublé à Jean Bouin samedi contre Perpignan, qui aurait même pu être un triplé, hein, si Arthur Kovic, je sais pas si l'image en tête, fait la petite passe.
Si le passe un peu plus tôt.
Ouais. Un match énorme du Fidji, en tout cas, 111 mètres, ballon en main, 3 franchissements, 7 défenseurs battus, au-delà de ces chiffres. En fait, ça fait partie de ces joueurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui dès qu'il porte le ballon, il se passe un truc. Ça crée de la panique dans la défense. Ça met aussi ses partenaires, ça c'est le plus important, dans l'avancée. Écoutez l'ouvreur du Stade Français, Joris Segond.
C'est notre papa de la ligne de trois quarts, c'est le plus ancien. Donc forcément, il est hyper important, même dans la communication et tout. Malgré Sofi Djé, il parle très bien sur le terrain, il communique énormément. Puis c'est un joueur qui a des qualités physiques, je pense que tout le monde le voit, énorme. Donc forcément, on s'appuie sur lui, il avance quasiment tout le temps. Donc derrière, c'est une clé maîtresse de l'équipe. Ouais. Sans lui, l'équipe, des fois, derrière, c'est pas la même.
1,95, plus de 100 kilos hein, pour ce physique dont parle Joris Segond. 79 essais, toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Paris en 2012. Il fait partie en tout cas des joueurs les plus utilisés cette saison par le manager parisien Gonzalo Quesada. C'est même la pièce maîtresse du jeu parisien, écoutez-le.
Il est idéal pour ça. Et ses copains, les jeux se développent pour qu'il se retrouve dans les bons endroits du terrain avec des situations un peu, avec des espaces. Il est génial pour ça. Et en plus, c'est un joueur adorable qui aime ses clubs, qui aime ses copains, donc qui est super important. Donc, voilà.
Et oui, donc voilà quoi. Parce qu'en fait, faut que Paris en profite un maximum. Après 10 années passées dans la capitale, le Fidjien, qui a 31 ans, rejoindra Toulon la saison prochaine. Contrat de 2 ans. C'est pas pour l'argent, c'est ce qu'il a expliqué sur le site du Stade Français, car Paris lui proposait, dit-il, exactement la même chose que le club varois, mais l'opportunité d'élever son fils dans une plus petite ville, surtout du sud de la France.
Le problème, Julien, pour le Stade Français, c'est qu'il va falloir en profiter, car non seulement il part, mais en plus, il n'est pas vacciné, et ça, comme pour d'autres joueurs, ouais, ça va rapidement poser un problème.
Ouais, il fait partie des très très rares, finalement, hein, joueurs du top 14 qui ont fait le choix, pour l'instant, de ne pas se vacciner. Il y en aurait 7 ou 8. 96,5% de joueurs vaccinés en top 14, 95 pour la Pro D2. Parmi les non-vaccinés du top 14, on a quelques noms comme assez rutilants, on va dire ça comme ça, comme Georges Moala ou Matsushima, le japonais à Clermont. Et donc, YCA, alors vous savez qu'à partir du 15 janvier, le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal et ça va compliquer très fortement les choses pour les joueurs non-vaccinés qui ne pourront tout simplement plus jouer, hein, a priori, plus s'entraîner non plus, avec potentiellement contrat et rémunération suspendue. Roxana Maracineanu, la ministre déléguée des Sports, a d'emblée fait savoir que les sportifs ne seraient pas exemptés par ce pass vaccinal. Donc, futur casse-tête à gérer pour les clubs. Écoutez à ce sujet Gonzalo Quesada, justement sur le cas à OICA.
On a échangé un peu, je sais qu'il est dans des processus de réflexion profonde, mais après c'est un sujet des sociétés aussi délicat, donc perso j'essaie de respecter ça, mais c'est sûr qu'aujourd'hui il est employé aussi de l'entreprise Stade Français et il y aura des situations que la loi vont obliger, et lui et le club. Après, lui dans les semaines précédentes, il fait partie de ceux qui ont été contaminés pour rien cacher. Du coup, là, il est entre guillemets protégé. C'est sûr que ça serait terrible que les règles gouvernementales, on va dire, nous empêchent d'avoir un joueur si important.
Il y en a d'autres dans le top 14. Hein. Vous pouvez ajouter Wayan Liebenberg, le troisième ligne de La Rochelle. Léo, dans le middle rouge, cette semaine, vous êtes penché sur la question. Hein.
Sur la question du pass vaccinal?
De la vaccination. Ouais.
Ouais, c'est un problème, parce qu'après, c'est un problème de droit
t'étais
du travail.
T'étais pas au courant, apparemment.
Ouais, mais
j'étais en vacances. Non, mais j'avais lu le lancement et je pensais que tu...
Ouais. T'as lu le middle, Léo?
Si tu travailles au middle,
ouais, où est-ce que tu bosses, toi, en fait?
Alors, tu reprendras ton lancement, je pensais que tu parlais des joueurs importants qui allaient quitter leur club, donc je m'étais préparé à ça.
ouais. C'est vrai que c'était pas très clair.
Ah ouais, le lancement était mal écrit, Wilfried, laisse-moi te le dire.
Je l'ai refait. Le pass vaccinal, vous avez travaillé dessus, Léo, non?
Oui, on a travaillé dessus, sur tous les autres, parce que j'étais en vacances.
Copain en montage. Bien sûr. Ouais.
Non, le problème, c'est que c'est le problème de droit du travail. Ça va bien au-delà du sport. Donc, est-ce qu'on peut vraiment.
Mais le volume est un salarié comme les autres.
Eh ben voilà, exactement. Donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir des ruptures de contrat ou est-ce qu'on va y avoir des prud'hommes qui suivent à ça? Est-ce que les joueurs vont déjà d'abord se plier aux réglementations? Il y a le problème aussi chez les amateurs où là, il n'y a pas de contrat de travail, mais les amateurs ne seront pas plus autorisés de jouer sans passe vaccinal. Donc, oui, c'est un problème assez global et qui n'est pas tranché parce que Roxana Maracineanu nous dit il n'y aura pas de dérogation. En fait, je crois savoir que la Ligue n'en a jamais demandé et a fait très vite savoir qu'il n'en demanderait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là maintenant? Et problème.
Effectivement. Alors, en plus, on a une info qui arrive de Julien Landry, vous l'aurez en direct dans ce podcast. 27 joueurs non vaccinés, apparemment. C'est pas beaucoup, c'est vrai. Ils seraient pas licenciés.
Il y en a un peu moins,
Ouais, en fait, c'est 27 joueurs et staff Pro D2 et top 14 qu'on fait.
Avec le staff, d'accord. Ouais. Et mais ils auraient l'interdiction d'accéder au stade. Et oui, on avoir revenu sur le salaire.
Le stade est un lieu accueillant du public, y compris en semaine, puisqu'on sait que les clubs organisent des séminaires dans les stades. Donc ça reste un lieu qui accueille du public, y compris en semaine. Donc effectivement, ils vont avoir interdiction d'accès au stade, y compris pour s'entraîner pendant les semaines. Donc ça va être un vrai problème à gérer et un casse-tête de droit, en fait, pour les clubs.
Denis, en un mot, et pour revenir sur VCA, en un mot et 30 secondes, une immense perte pour le Stade français et énorme pioche pour Toulon. Évidemment. Ouais,
ce qui est incroyable, c'est que cette perte, alors qu'on me dit que c'était le même salaire d'un côté comme de l'autre, donc je
Il peut avoir besoin de changer d'air aussi. 2012, ça fait.
Oui,
un moment
non, mais non, mais il dit qu'il veut pour son enfant, donc je comprends et je respecte. Après, c'est un monstre du rugby. On en parle peut-être pas assez, tellement son influence est grande sur cette équipe du Stade français. Chaque fois que il y a eu des difficultés, c'est lui qui sauvait la baraque. Il sait tout faire. Il court vite, il est adroit, on le sait, mais
c'est l'envergure.
Player, ouais. C'est l'envergure. C'est un des meilleurs joueurs du championnat, on le sait, tout le monde le sait, mais je pense que ça va faire un grand vide au Stade France. Et comment le remplacer, ça, c'est une question qu'il faut se poser, je n'ai pas la réponse.
Effectivement. Allez, on passe maintenant à l'actu internationale, c'est pour finir, c'est le French Cancan. Le French Cancan jusqu'à la Coupe du Monde en France, l'actu de la planète rugby. On se penche sur le Japon, c'est le middle qui en parle aussi, mais
on parle de
japonais. On le savait depuis longtemps, nous aussi, RMC. Alors Léo, je sais pas si tu le sais, mais les Japonais aimeraient intégrer un tournoi majeur.
C'est dans le middle, Léo, c'est dans le middle.
J'ai vu passer ça, j'ai lu mon journal quand même.
Désolé de parler sur l'hymne japonais, hein. C'est l'hymne japonais que Geoffrey nous a mis, mais
je le connais pas par cœur.
On l'apprécie, mais moi non plus, on l'apprécie, mais on est désolé de parler, mais voilà, on est pris par le temps, ils nous excuseront, évidemment.
Geoffrey,
ils ont pas trop le sens de l'honneur chez eux, en plus, donc ça va. Vas-y Léo, c'est bon.
Non, effectivement, mais c'est pas nouveau, ils cherchent une compétition, entre guillemets, à la hauteur de leur développement. C'est quand même une nation qui a fait quart de finale, la dernière fois, qui avait tapé en 2015 l'Afrique du Sud et qui a envie de continuer à se développer. Alors, ils sont à la fois intéressés par le sud et le nord, parce que leur positionnement géographique leur permet à peu près les deux. C'est pas nouveau, ça fait quand même quelques mois, depuis la Coupe du Monde 2019.
On les voit plus dans le rugby championship quand même, Léo.
Y a quand même un gros marché au Japon. Si de mémoire par la Coupe du Monde, ils faisaient des audiences à 50 ou 60 millions, et je crois que la puissance financière elle est en Europe. Donc je pense que les Européens sont quand même pas.
Ils devront être vaccinés. Ils devront être vaccinés s'ils viennent jouer. Hein.
Oui, comme les autres.
Oui, c'est pour Matsushima.
Mais je crois que Matsushima est pas, enfin, ils sont pas tant que ça au Japon de ne pas être vaccinés. Lui, il a fait ce choix-là, mais donc voilà, les deux possibilités sont ouvertes. Effectivement, sur les fuseaux horaires, on les voit plus aller jouer en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Maintenant, l'Europe regarde ça quand même, parce que c'est un marché important.
Jeff, très vite, ils en sont où nos amis japonais depuis la dernière Coupe du Monde? Ils avaient créé la sensation quand même, quart de finaliste.
Ils n'avaient pas beaucoup joué, surtout depuis la Coupe du Monde, parce qu'en un an et demi, 100 matchs, tout simplement pour les Japonais. Défaite contre les Lions britanniques, défaite contre l'Irlande, défaite contre l'Australie, raclée contre l'Irlande 60-5, victoire contre le Portugal, et défaite contre l'Écosse. C'est vrai que sur le papier, on sent que cette équipe est un peu en perte de vitesse, mais elle n'a pas l'habitude de jouer, elle n'a plus de repères, d'automatisme, et c'est vrai qu'ils sont un petit peu au creux de la vague, les Japonais.
Le Japon ou le 15 de France ira jouer deux test matchs cet été, hein, sans les finalistes du top 14, les 2 et 9 juillet, et puis qui seront les Japonais qui seront entre autres avec l'Angleterre et l'Argentine dans la poule D de la Coupe du Monde. Ils iront aussi en Angleterre en novembre 2002. Là, ça s'est tombé, ils vont faire un test à Twickenham. Denis, est-ce que tu penses qu'ils peuvent rééditer leur perf et passer, allez, on va dire devant l'Argentine peut-être plus que devant l'Angleterre et sortir des poules en 2023?
Bon, on aimerait tellement, on a été séduit par ces Japonais en 2019. Mais c'est compliqué pour eux d'enchaîner les matchs, les performances, on le voit, on le souhaite, mais ça va être compliqué, ça va être difficile.
C'est vrai que leur isolement géographique est problématique. Alors certes, ils trouvent des matchs sur des test matchs, mais ils n'ont pas de compétition régulièrement tous les ans avec une confrontation très haut niveau. Donc tous les 4 ans, ils arrivent sur des grosses préparations à faire des coups et même à surprendre. Mais c'est un vrai problème, leur isolement géographique sur la planète rugby, ouais.
Mais c'est vrai que l'Argentine-Japon vaudra le détour en 2023 dans cette poule D, ça pourrait être pas mal. On suivra ça déjà, les deux test matchs, donc on le répète, 15 de France en juillet, et puis on sera déjà à ce moment-là un an de la Coupe du Monde en France qui nous fait évidemment rêver et saliver. Merci les potos, merci d'avoir été là au début 2022.
Merci, bonne année encore à tout le monde.
On souhaite évidemment, avant de se quitter, une très bonne année à tous les gens qui téléchargent ce podcast. Ils sont extrêmement nombreux.
Et Léo, t'es quand même bien meilleur que Manu Massica. Hein. Franchement, c'est le point.
Oui, mais il n'a pas vu le middle, c'est ça le problème.
Il va finir par la photo.
Ni les lancements.
Tous les gens qui sont en train de courir, de faire la cuisine ou qui nous prennent comme une berceuse pour s'endormir, vous imaginez la douce voix de Jeff Paturo pour s'endormir.
Bonne nuit.
On vous envoie tous nos vœux à vous et aux vôtres pour 2022. On envoie aussi, messieurs, les vœux à Christophe Cessieux, hein, qui pouvait être des nôtres, il était en vacances. Le pauvre. On l'embrasse à Merano comme Gignac. On l'embrasse à Christophe. Merci les gars, on se retrouve la semaine prochaine et je vous fais la bise.